64, deuxième partie. Esténio, Esténio, dit Hannibal impatienté. Esténio, reprit le moine, n'est-il pas perdu, sans retour? Avons-nous le droit de prier pour lui? Dieu révoquera-t-il pour lui ses immuables arrêts? N'est-il pas mort de la mort de Judas Iscariote? De quelle mort? Dit le prieur épouvanté. Le suicide? Le suicide? Répondit Magnus d'une voix creuse. Le vieux prieur retomba sur son fauteuil de chêne en joignant ses mains jaunes iridées dans un sentiment d'horreur et de consternation inexprimable. Puis, se tournant vers Magnus, il le réprimanda avec chaleur. « Une telle catastrophe s'est passée presque sous vos yeux. Un tel scandale s'est accompli dans l'enceinte consacrée au culte. » Et vous ne l'avez pas empêché. Et vous êtes allé prier comme Marie quand il fallait agir comme Marthe. Vous avez été lever le front dans le temple, comme le pharisien. Vous avez dit, « Regardez-moi et bénissez-moi, mon Dieu, car je suis un saint prêtre, et cet impie qui meurt là-bas peut se passer de vous et de moi. » Vous avez été rêver et dormir, moi, un imbécile, un égoïste et lâche. Quand il fallait vous attacher au pas de ce malheureux, vous jeter à ses pieds, vous traîner dans la poussière, employer les larmes, la menace, les prières et la force même pour l'empêcher de consommer son affreux sacrifice. Au lieu de fuir le pécheur comme un objet d'horreur et de scandale, ne fallait-il pas baiser ses genoux et l'appeler mon fils et mon frère pour attendrir son cœur et lui faire reprendre courage, ne fût-ce qu'un jour? Un jour qui eût suffi peut-être pour le sauver. Le médecin déserte-t-il le chevet du malade dans la crainte de la contagion? Le samaritain se détourna-t-il de dégoût en voyant la plaie hideuse du juif? Non, il s'en approcha sans crainte. Il y versa le baume, il le prit sur sa monture et le sauva. Et vous, pour sauver votre âme, vous avez perdu l'occasion de ramener l'enfant prodigue au bras du père. C'est vous, âme étroite et dure, qui frémirez d'épouvante quand Dieu criera au milieu de vos nuits sans sommeil. Caïn, qu'as-tu fait de ton frère? Assez, assez, mon père, dit le moine en tombant sur le carreau et en traînant sa barbe dans la poussière. Épargnez mon cerveau qui se brise, épargnez ma raison qui s'égare. Venez, s'écria-t-il en s'attachant à la robe du prieur, venez avec moi, priez sur sa dépouille. Venez prononcer les mots qui délient, venez toucher l'hysope qui lave et qui blanchit, venez dire les exorcismes qui brisent l'orgueil de Satan, venez verser l'huile sainte qui enlève toutes les souillures de la vie. » Le prieur, touché de sa douleur, se leva, triste et irrésolu. « Êtes-vous bien sûr qu'il se soit donné la mort lui-même » dit-il avec hésitation. N'est-ce pas l'effet du hasard, ou, disons mieux, d'une sévérité céleste qui ne nous est pas permis d'interpréter et au bout de laquelle son âme aura trouvé le pardon? Que savons-nous? Il peut s'être trompé dans les ténèbres de la nuit. Un accident peut arriver. Parlez donc, mon fils. Avez-vous des preuves certaines du suicide? Magnus hésita. Il eut envie de dire que non. Il espéra tromper la clairvoyance de Dieu et, au moyen des sacrements de l'Église, envoyer au ciel cette âme condamnée par l'Église. Mais il ne l'osa pas. Il avoua, en frémissant, toute la vérité. Il rapporta les paroles écrites sur le sable. « Magnus, va dire à Trenemore qu'il me retrouvera ici. » « Il est donc trop vrai, » dit le prieur en laissant rouler des larmes sur sa barbe blanche. « Il n'y a pas moyen d'échapper à cette funeste lumière. Pauvre enfant, mon Dieu, votre justice est sévère et votre colère est terrible. » « Allez, Magnus, » ajouta le vieillard après un instant de silence, « faites fermer les portes du couvent et priez quelques bûcherons ou quelques bergers de donner la sépulture à ce cadavre. L'Église nous défend de lui ouvrir les portes du temple et de l'ensevelir en terre sainte. » Cet arrêt effraya Magnus plus que tout le reste. Il frappa sa tête avec violence sur le pavé et son sang coula sur sa joue livide sans qu'il s'en aperçût. « Allez, mon fils, dit le prieur en le relevant, prenez courage, obéissons à la Sainte Église, mais espérons. Dieu est grand, Dieu est bon. Nul n'a sondé jusqu'au fond les trésors de sa miséricorde. D'ailleurs, nous sommes des hommes faibles et des esprits bornés. Obéissons à la lettre et n'interrogeons pas l'esprit des lois sacrées. Aucun homme, fût-il le chef de l'Église, n'a le droit de condamner un autre homme irrévocablement. L'agonie du pécheur a pu être longue. En se débattant contre les approches de la mort, il a pu être éclairé d'une soudaine lumière. Il a pu se repentir et faire entendre une prière si fervente et si pure qu'elle l'ait réconcilié avec le Seigneur. Ce n'est pas le sacrement qui absout, c'est la contrition, vous le savez. Un instant de cette contrition sincère et profonde peut valoir toute une vie de pénitence. Prions et soyons humbles de cœur. Dans la jeunesse de Sténio, les vertus ont été assez sublimes, peut-être, pour laver toutes les iniquités de l'avenir. Et dans notre vie passée, il y a peut-être de telles souillures que toutes les abstinences du présent et de l'avenir auront peine à les absoudre. Allez, mon fils, si la règle me défend d'admettre ce cadavre dans le couvent et de l'accompagner au cimetière avec les cérémonies du culte, au moins l'Église m'autorise à vous donner une licence particulière. C'est d'aller veiller auprès du corps et de l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure, en faisant telle prière que votre charité vous dictera, pourvu qu'elle ne soit pas conforme au rite consacré pour les sépultures chrétiennes. Allez, c'est votre devoir. C'est la seule manière de réparer, autant qu'il est en vous, le mal que vous n'avez pas su empêcher. C'est à vous d'obtenir grâce pour lui et pour vous. Je prierai de mon côté. Nous prierons tous. Non pas en cœur et dans le sanctuaire, mais chacun dans notre cellule et dans la ferveur de nos âmes. Le moine infortuné retourna près de Sténio. Les bergers l'avaient placé à l'abri du soleil, à l'entrée d'une grotte où les femmes brûlaient de la résine de cèdre et des branches de genièvre. Ces pieux montagnards attendaient que Magnus revînt leur donner l'ordre de le porter au couvent, et ils l'avaient déposé sur un brancard fait avec plus d'art et de soin que le premier. Ils avaient entrelacé des branches de sapin et de cyprès avec leurs rameaux vivaces, qui formait au cadavre un lit de sombre verdure. Les enfants l'avaient parsemé d'herbes aromatiques, et les femmes lui avaient mis au front une couronne de ces blanches fleurs étoilées qui croissent dans les prés humides. Les liserons blancs et les clématites, qui grimpaient le long des flancs du rocher, se suspendaient à la voûte en festons gracieux et sauvages. Ce lit funèbre, si frais, si agreste, surmonté d'un dais de fleurs et baigné des plus suaves parfums, était digne de protéger le dernier sommeil d'un jeune et beau poète endormi dans le Seigneur. Les montagnards s'agenouillèrent en voyant le prêtre s'agenouiller. Les femmes, dont le nombre avait grossi considérablement depuis le matin, commencèrent à égrener leurs rosaires. Tous s'apprêtaient à suivre le moine et le cadavre jusqu'à la grille des Camaldules et à revenir au bord du lac pour assister de l'autre rive aux funérailles du cimetière. Mais lorsque, après une longue attente, ils virent le soleil descendre vers l'horizon sans que Magnus leur dît d'enlever le corps, sans que les moines, revêtus de leurs camails noirs couverts d'ossements et de larmes, vinssent à sa rencontre, ils s'étonnèrent et se hasardèrent à l'interroger. Magnus les regarda d'un air égaré, essaya de leur répondre et balbutia des paroles incertaines. Alors, voyant à quel point la douleur l'avait troublé, et craignant de l'affliger davantage en le pressant de questions, un des plus vieux bûcherons de la vallée se décida à se rendre au couvent avec ses fils et à demander des ordres au prieur. Au bout d'une heure, le bûcheron revint. Il était silencieux, triste et recueilli. Il n'osait parler devant Magnus, et comme tous les regards l'interrogeaient, il fit signe à ses compagnons de le suivre à l'écart. Tous ceux qui entouraient le cadavre, entraînés par la curiosité, s'éloignèrent sans bruit et le joignirent à quelque distance. Là, ils apprirent avec surprise, avec terreur, le suicide de Sthénio et le refus du prieur de l'ensevelir en terre sainte. S'il avait fallu au prieur toute la fermeté d'un esprit généreux, toute la chaleur d'une âme indulgente, pour ne pas désespérer du salut de Sthénio, à plus forte raison, ces hommes simples et bornés furent-ils épouvantés d'un crime condamné si sévèrement dans les croyances catholiques. Les vieilles femmes furent les premières à le maudire. « Il s'est tué, l'impie !» s'écrièrent-elles. « Quel crime avait-il donc commis ? Il ne mérite pas nos prières. Le prieur lui refuse un tombeau dans la terre consacrée. Il faut qu'il ait fait quelque chose d'abominable, car le prieur est si indulgent et si saint. Il avait une plaie honteuse au cœur, cet homme qui a désespéré du pardon et qui s'est fait justice lui-même. Ne le plaignons pas. D'ailleurs, il est défendu de prier pour les damnés. Allons-nous-en. Que le moine fasse son métier, c'est à lui de le garder durant la nuit. Il a le pouvoir de prononcer les exorcismes. Si le démon vient réclamer sa proie, il le conjurera. Partons. » Les jeunes filles épouvantées ne se firent pas prier pour suivre leur mère, et plus d'une, en retournant vers sa demeure, crut voir passer une figure blanche dans les profondeurs du taillis et entendre, sur l'herbe humide de la rosée du soir, les pas errants d'une ombre plaintive qui murmurait tristement « Détournez-vous, jeune fille, et voyez ma face livide. » « Je suis l'âme d'un pécheur et je vais au jugement. Priez pour moi. » Elle pressait le pas et arrivait palpitante et pâle à la porte de leur chalet. Mais le soir, en s'endormant, je ne sais quelle voix faible et mystérieuse répétait à leur chevet « Priez pour moi. » Les bergers, habitués aux veilles de la nuit et à la solitude des bois, furent moins accessibles à ces terreurs superstitieuses. Quelques-uns allèrent rejoindre Magnus et résolurent de garder le mort avec lui. Ils plantèrent aux quatre coins du brancard de grandes torches de sapin résineux et déplièrent leurs casaques de peau de chèvre pour se préserver du froid de la nuit. Mais quand les torches furent allumées, elles commencèrent à projeter sur le cadavre des lueurs d'un rouge livide. Le vent qui les agitait faisait passer des clartés sinistres sur ce visage près de tomber en dissolution, et par instant, le mouvement de la flamme semblait se communiquer aux traits et aux membres de Sthénio. Il leur sembla qu'il ouvrait les yeux, qu'il agitait une main convulsive, qu'il allait se lever. La frayeur s'empara d'eux et, sans oser s'avouer mutuellement leur puérilité, ils adoptèrent tacitement l'avis unanime de se retirer. Le moine, dont la présence les avait un instant rassurés, commençait à les épouvanter plus que le mort lui-même. Son immobilité, son silence, sa pâleur et je ne sais quoi de sombre et de terrible dans le plissement de son front chauve et luisant, lui donnait l'aspect d'un esprit de ténèbres plus que d'un homme. Ils pensèrent que le démon avait pu prendre cette forme pour damner le jeune homme, pour le précipiter dans le lac, et qu'il était là maintenant, veillant sur sa proie, en attendant l'heure de minuit où les horribles mystères du sabbat s'accomplissaient. Le plus courageux d'entre eux offrit de revenir le lendemain dès l'aube pour creuser la fosse et y descendre le cadavre. « C'est bien inutile, » répondit un des plus consternés, et cette réponse fut comprise. Ils se regardèrent en silence. Leur pâleur les effraya mutuellement. Ils descendirent vers la vallée et se séparèrent d'un pas flageolant, prêts à se prendre les uns les autres pour des spectres.